Chez Sarkozy, le champagne coule à flot. Bling, bling, chez toi, il n'y a plus de boulot. Bling, bling, il porte toujours des Rolex. Bling, bling, et toi, tu ressors ton vieux Solex. Bling, bling, les banquiers sont incompétents. Bling, bling, ils veulent pas te prêter d'argent. Bling, bling, Sarkozy leur donne des milliards. Bling, bling, histoire de mettre du beurre dans leur caviar. Bling, bling, pour gonfler ton pouvoir d'achat. Bling, bling, de produits périmés, ton cabas tu rempliras. Bling, bling, et c'est un beau geste pour la planète. Bling, bling, recycler les poubelles des supérettes. Bling, bling, pour les plus aisés, c'est le bouclier fiscal. Bling, bling, pour les mal logés, c'est la matraque et ça fait mal. Bling, bling, car si t'es dans la détresse, c'est que tu manifestes. Bling, bling, Sarko t'envoie les CRS. Bling, bling. Voilà, bon courage à tous, à bientôt.
C'est la catastrophe, maintenant c'est en Béarn que ça touche. Une usine encore qui ferme, c'est la Célanès, 350 personnes à la casse, et puis plus de 2000 emplois, et puis tout le reste qui va suivre. Alors je voudrais dire qu'à la Bondo, la crise. Hein. Les Américains ont ouvert une autre usine il y a 2 ans en Chine, et celle-là, ils l'ont achetée juste pour juguler un concurrent. Alors bien vu, bon, surtout pour eux, parce que les syndicats, les élus, pas vu, pas voulu voir, on ne sait pas. Au fait, les syndicats, vous avez intérêt à vous bouger parce que sinon, là, jeudi dernier, on était 32 000 dans les rues de Pau. Vous étiez en tête du cortège et vous risquez de courir derrière les cortèges qui vont se former maintenant si vous ne bougez pas. Hein. Et puis le 1er mai, je crois qu'on va être nombreux à avoir piscine si rien de concret n'arrive. Et peut-être même que ce sera pour baigner quelques patrons. Alors voilà, je suis un peu en colère, je me radicalise, mais je voudrais vous dire que j'entends que nous sommes nombreux à le faire. Je me suis rendu compte que le répondeur m'est indispensable, parce que je me rends compte qu'on n'est pas seul dans notre coin, il y en a beaucoup qui pensent la même chose. Et pour ça, pour cette espèce d'espoir de savoir qu'on est des milliers à penser la même chose, merci Daniel. Ton émission est plus que jamais nécessaire. Au revoir, c'était Lucie de Pau.
Oui, bonjour, c'est Marie à Paris. Par rapport à ce que nous venons d'entendre comme reportage, que c'était un petit peu excessif et que ça risquait d'exciter les gens et de c'est un peu un pouce à la violence, quoi, cette façon de dire les choses, parce que c'est une crise mondiale, c'est les socialistes en Espagne font 3 fois moins bien que nous sur le plan du chômage, et qu'est-ce qu'on aura quand on aura tout cassé? C'est bien beau de dire c'est pas normal, on souffre, il faut tout casser, mais une fois qu'on aura tout cassé, qu'est-ce qu'on fera? Vous avez la réponse, ce serait pas mal. Merci, au revoir.
Bonjour, vous avez reçu un SMS sur votre téléphone fixe. Voici le message.
Le prochain repère de Brest reprend ce mercredi 25 mars au même endroit et au même lieu.
À bientôt sur les services d'Orange.
Je suis perplexe quant à j'entends les médias et le MEDEF s'offusquer du parachute doré du PDG de Valeo. 2 ans de salaire comme prime de licenciement d'un employé qui n'est pas fautif, et surtout avec ancienneté, devrait paraître normal. C'est donc le salaire qui ne l'est pas. Crise ou pas crise?
Quelle mouche les pique, nos hommes politiques de droite. Ils s'énervent pour de tout petits millions que les patrons s'octroient ici et là. Ah oui, pardon, c'est vrai que c'est notre argent de contribuable qui est en cause. Dommage qu'il ne se soit pas énervé davantage quand notre argent de contribuable va partir dans la poche de Bernard Tapie avec l'aide de l'État en plus. Cette fois-là, pourtant, il y en a pour un total d'environ 100 millions d'euros. Info Mediapart. Allez comprendre.
C'est Gilles Dufresne-Doisan dans l'Isère. Je viens d'écouter l'émission d'aujourd'hui, lundi 23 mars, et tous les reportages me percutent. Surtout en ce qui s'agit des après-manifs. Justement, sachez qu'à Grenoble, ville touchée par près d'un millier de licenciements entre Caterpillar, Valeo, Microélectronique et les autres, après la manif du 19 mars, une assemblée générale était organisée. Nous nous sommes retrouvés quelques centaines, à peu près 300-400 je dirais, à débattre des suites à donner. Et en toute fin d'assemblée, nous étions une centaine et avons décidé à main levée, justement, de marcher sur le Carrefour hypermarché le plus proche afin d'effectuer un prélèvement de nourriture que nous amènerions aux salariés Caterpillar et Chirol. Pour la forme, ça a un peu raté. C'était assez spontané, hein, il faut dire, l'organisation. Les vigiles du Carrefour, ils n'ont pas fait un pli et nous avons réussi à entrer. pas à ressortir. Sur le fond, nous avons bloqué presque à la moitié de la ligne des caisses pendant une heure et demie, avec les flics casqués et armés qui faisaient la barrière. Le gouvernement n'a encore pas compris qu'un vent de révolte est en train de se former, qui va aller croissant. Alors, peut-être c'est une idée, peut-être à refaire. Alors à bientôt et vive la révolte contre tous les pouvoirs financiers.
C'est Vince Desplanes pour un petit message pour notre cher président. Alors ça, Sarko, ça recommence à m'énerver, ça recolle pas à la réalité. Ça reconnaît les PDG, ça reconnaît pas un exploité. Ça recotoie les grandes fortunes, ça recoute des thunes, ça reconsomme avec nos sous, ça reconvit les pixous, ça recostume en Prada, ça recouraille comme un malfrat, ça reconvoit toutes les richesses, ça recontraste avec Jaurès, ça reconsacre sa vie au fric, ça concrétise que l'on critique, ça concrétise le rêve des riches, ça recontrôle avec des fiches. Ça reconne les manifestants, ça recorrige les opposants, ça recondamne des résistants, ça recochonne des innocents, ça recocolle les racistes, ça recombat les anarchistes, ça reconfisque les libertés, ça reconcentre les sans-papiers, ça recongestionne les maisons d'arrêt, ça recommémore Moquet, ça recosmétique s'arrête de côté, ça compte les expulsés, ça recompartimente les hommes, ça recompile sur les droits de l'homme, ça recommande avec la peur, ça reconcurrence les dictateurs, ça reconglutine par la tromperie, ça recontrecarre avec mépris, ça recocufie les électeurs, ça recommissionne des voleurs, ça recocote la magouille, ça recompose ses fouilles, ça recommet des délits, ça recomplote avec tapis, ça recombine les faits, ça recomparait jamais, ça reconsulte jamais le prolo, ça conspire dans son dos, ça recollecte les impôts, ça recodifie les hôpitaux, ça congédie les fonctionnaires, ça contribue à la misère. Ça recouillonne les ouvriers, ça recontriste les salariés, ça conseille de travailler, ça reconfisque nos métiers, ça recollectionne les réformes pourries, ça concède pas un sac de riz, ça recompense pas de beaux discours, ça recomplaît à la cour, ça recorrompt les syndicats, ça recourtise les médias, ça recolporte de fausses idées, ça reconfond public-privé, ça recourt la presse au quotidien, ça recopie le système ricain, ça recolonise avec ses firmes, ça recommandite des crimes, ça recolore le drapeau blanc, ça coopère avec l'OTAN, ça recélèbre avec maîtrise, ça communie la République, ça convertit l'État laïque. Ça recommerce le savoir, ça recommute l'histoire, ça recomprime les esprits, ça conditionne la vie, ça recoule la France, ça concerne toutes les consciences, ça conforme à ses désirs, ça conjoncture le pire, ça constitue l'empire, ça compromet l'avenir, ça couronne son ego, ça contamine ses rivaux, ça recommande comme un roi, ça contourne les lois, ça corse la donne, ça convient à personne, ça courrousse le cœur, ça compte pas mon bonheur, ça contrarie par sa présence, ça continue avec aisance, ça conteste le cri de la rue, ça comprend pas que c'est foutu, sa compétence est limitée, sa connerie est terminée, sa correction à Sarkozy, ça reconstruit sans lui.
Hey, formidable, merci. Et bravo pour ce slam dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. On trouve ainsi chaque jour de vraies merveilles. Merci pour vos messages quotidiens, chers AMG, auditeurs, auditrices, modestes et géniaux et géniales. Aujourd'hui, à bas la but. Voilà ce qu'on a décidé. À bas la but, garde à vue, à bas la but. Vous le savez qu'il y a de plus en plus de garde à vue dans notre bel hexagone. Et Charlotte Perry, ça l'a intéressé. Ça, elle s'est dit comment ça fonctionne, pourquoi, comment, qu'est-ce qui fait qu'on va de plus en plus vers un état pénal, alors qu'on aurait pu penser que ce serait plutôt un état social dont nous rêvions, que nous souhaitions. Eh bien non, tout indique que nous allons plutôt vers cette forme de société. C'est pas tout à fait nouveau, c'est une pente douce mais ferme vers laquelle nous nous dirigeons. Donc aujourd'hui, garde à vue, à bas la but. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, c'est Françoise, j'appelle de Loire-Atlantique. Juste un petit message pour parler des pratiques de France Télécom qui essaie de se débarrasser de ses employés, et si on refuse de partir, on met la pression, on invente de supprimer des primes pour intimider les gens. Voilà comment ça se passe à France Télécom de nos jours.
Le repère vendéen de là-bas si j'y suis se tient demain, mercredi, de 20h à 22h à la Pitchouli, place de la Bégrelie à Chaland. Au menu et après les manifs, quoi d'autre? Les entortillements de la novlangue. Et un regard sur le film documentaire de Gilles Perret, Walter, Retour en résistance. Et au passage, on vous incite fortement à aller le voir si jamais il passe dans votre secteur. À demain, au revoir.
Bonjour Daniel et toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Un petit message pour informer les auditeurs que le personnel des agences retraite de la CRAM Midi-Pyrénées est en grève mardi 24 mars. Ils rappellent que leur démarche et leur mobilisation n'ont qu'un seul but, pouvoir remplir pleinement leur mission de service public auprès des assurés. La situation actuelle les contraint, nous contraint au détriment des assurés à se détourner du cœur de leur métier pour répondre aux seuls critères statistiques des conventions d'objectifs et de gestion imposées par le gouvernement et la Caisse nationale, à se transformer en technicien orchestre faute de moyens à hauteur des ambitions des agences retraite départementales. Ils demandent donc des réponses avec des assurances concrètes et planifiées sur les revendications. Donc merci pour vos émissions et bonne continuation.
Allô, bonjour à tous, bonjour à tous les AMG, bonjour à toi Daniel. Je suis Valentin à Strasbourg, je suis étudiant en droit. Et je tenais à préciser que suite à une assemblée générale unitaire hier, qui a rassemblé énormément d'étudiants sur le parvis de la faculté de droit, aucun amphithéâtre n'étant assez grand pour nous accueillir tous, suite à cet AG, la décision du blocage de la fac de droit a été votée par 600 voix contre 400. Ce blocage est absolument historique. Aussi, nous tenions à tous préciser aux étudiants que contrairement à la dépêche AFP qui est parue hier soir, ce ne sont pas uniquement des étudiants de lettres et de sciences humaines de la fac voisine qui sont arrivés à envahir la fac, mais aussi nombre d'étudiants en droit. A noter que la proposition de blocage est venue d'un étudiant en droit. Après une nuit de blocage, pacifique, je tiens à préciser, un groupe d'anti-bloqueurs munis de matraques et de bombes lacrymogènes ont tenté de défoncer les portes ce matin. Avec parmi eux, s'est établi un certain nombre d'étudiants sympathisant avec l'extrême droite. Voilà, nous tenions à dire toutes ces vérités. Merci à toi, Daniel, de nous soutenir avec tes émissions. Merci à toi de soutenir notre lutte contre la privatisation de la fac. Merci Daniel, salut, bonne journée.
C'est la déstabilisation, donc nous on ne savait pas quelle heure il était, on ne savait pas si c'était le jour, la nuit, on était dans une cellule où tout est jaune, il y a un néon au-dessus de notre tête, on ne peut pas dormir.
Ils m'ont mis à poil, ils m'ont fouillé entièrement, enfin vraiment le truc complètement démesuré. C'est une attitude humiliante jusqu'au bout, je crois que de toute façon c'est fait pour ça. Rabaisser les gens au maximum, quoi. C'est fait réellement de cette façon.
On m'a attaché au radiateur. De là, ils m'ont démenotté. Ils m'ont fait mettre tout nu donc devant ces gens, à me faire tourner pour bien m'humilier.
Le résultat est là. On vit dans un état de suspect. Et moi, je, comme tout le monde, je veux dire, je me sens suspect.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry, garde à vue, à Balabu.
Flight number 2, arriving from New York.
Comme chaque soir depuis deux semaines, Fouad et Eric retrouvent leurs amis de la cité du Gay-Logis au Bourget.
France 3, 11 novembre 2005.
Ils viennent d'apprendre, il y a quelques minutes, la suspension des policiers du commissariat de la Courneuve. C'est Fouad qui a déposé plainte contre ces policiers. Ces derniers l'ont violemment frappé au cours de son interpellation lundi soir.
Ça, c'est la plainte de l'IGS, hein, monsieur. C'est la plainte de l'IGS. Il y a tout ce qui s'est passé, monsieur.
Dans sa plainte à la police des polices, le jeune homme accuse plusieurs fonctionnaires de l'avoir frappé à coups de poing et de pied alors qu'il venait d'être remis en liberté après 48 heures de garde à vue.
48 heures de garde à vue gratuitement. Ils m'ont mis des pointus dans la tête, ils m'ont défoncé.
La justice soupçonne trois de ces policiers d'avoir rédigé un faux procès-verbal d'intervention pour couvrir leurs gestes. Le passage à tabac du jeune homme avait été filmé par hasard par nos confrères de France 2. La réaction du ministre de l'Intérieur n'a pas tardé.
J'ai pris la décision de sanctionner les 8 fonctionnaires. Je n'accepterai aucun débordement des forces de l'ordre.
Il n'est pas bien, hein? Il n'était pas bien, notre président, quand il parlait comme ça. Ferme, hein? C'était le 11 novembre 2005 sur France 3. Ouh, tout ne baisse pas dans notre pays. Il y a des activités qui augmentent. Les gardes à vue, par exemple, les gardes à vue, 562 083 gardes à vue en 2007. Contre seulement 336 718 en 2001. 200 000 de plus depuis l'arrivée au pouvoir de celui qui vient de parler, Nicolas Sarkozy. L'année dernière, en 2008, 1% de la population française a été mise en garde à vue. En 5 ans, le nombre de gardes à vue a augmenté de 54%, ce qui nous hisse au niveau de la Turquie. Alors voilà, l'état social recule, l'état pénal progresse. Bien sûr, c'est pas encore Goebbels, c'est le goulag, mais c'est tout de même une extension du domaine du contrôle, car bien sûr, il n'y a pas que la garde à vue. Peu à peu, nous devenons une société en liberté surveillée. Pourquoi de plus en plus ? Bien sûr, Monsieur Sarkozy et ceux qui l'ont élu et la mouvance politique à laquelle il appartient à une tradition sécuritaire. Mais la gauche libérale avait déjà amorcé ses politiques pour montrer à quel point elle n'était pas laxiste, cette gauche-là. Que s'est-il passé dans, si on prend un peu de recul historique, jadis, dans les 30 Glorieuses, dans les années 50-60, la délinquance trouvait un terme dans le travail. Les vilains blousons noirs, parlez de ça à vos grands-parents, les vilains blousons noirs qui défrayaient la chronique se retrouvaient à un moment ou à un autre, eh bien, au boulot, à l'usine, au service militaire. Tout ça avait des effets de ça calmait le monde, ça cadrait, et il y avait une volonté générale de réinsérer, de réinsertion. Avec le développement du néolibéralisme, du libre-échange, de la guerre de tous contre tous, ces sociétés structurantes ont disparu. Et on assiste de plus en plus à une société d'individus livrés à eux-mêmes et qu'on ne sait plus comment contrôler. Alors, développement de la société de contrôle, développement de toutes sortes de formes de contrôle. Et puis, il y a eu le 11 septembre 2001 qui a vu se développer toutes ces politiques et ces mesures policières et ces mesures de contrôle sur les populations. Aujourd'hui donc, on s'intéresse à la garde à vue. Beaucoup de Français sont passés, ont eu affaire et ont témoigné sur ces gardes à vue. Charlotte Perry a enquêté. C'est dommage que notre Charlotte n'ait pas rencontré Xavier Tibéri. Parce que Madame Xavier Tibéri, eh bien, elle aussi, elle est passée en garde à vue. Et ça l'a beaucoup frappée. Elle a pensé que c'était comme Buchenwald. Comparer la police française au SS, dans la bouche de Madame Tibéri, c'est quand même très fort. Voilà pourquoi, entre autres, nous sommes ensemble jusqu'à 16h, chers AMG. À bas la but, à bas les gardes à vue.
Mon policier à la police, sa moustache, elle est pas à postiche. Son double corps pétille de malice lorsqu'on la meloue avec un bachiche. Enfin gourmet, il va au manif. Sans préjugé, il frappe au jugé. Dans ses Rangers, il est super actif. Il fait des dégâts dans le camp des agités. Il grogne souvent lorsqu'il est en faction. Il voit passer les jeunes, ça c'est son obsession. Ce qu'il lui faudrait, c'est un peu d'action. Un passage à tabac, une arrestation. Moi je l'aime comme il est. Je le trouve fier, allure, suspicieux et zélé. Il est descendant. Je le trouve fier, allure, suspicieux et zélé. Mon policier, j'aime qu'il me parle, qu'il me questionne. Oh, j'aime qu'il me frappe, oh oui, qu'il me sermonne. Avec lui, c'est tous les soirs.
Thank you.
Merci.
Donc moi je suis là depuis 33 ans, je crois me souvenir. J'ai travaillé dans une entreprise qui était ici, qui a disparu, qui occupait 300 personnes. J'ai été directeur administratif financier pendant 17 ans à cette entreprise, plus 12 ans dans une autre. Bon, j'ai une tendance plutôt, de par ma formation, plutôt économique. Donc je suis en partie pour une société un peu libérale. Je suis à la retraite maintenant depuis une dizaine d'années. J'ai 71 ans cette année. Voilà, donc j'essaie de vivre comme un bon père de famille dans cette ville. Je ne suis pas un fou de la voiture, je ne suis pas un fou de quoi que ce soit d'ailleurs. Voilà, en gros, pour vous situer un petit peu le paysage.
Voilà, le paysage, eh ben, c'est Michel Bouet, il vient de vous le dire. C'est le contraire d'un enragé, le contraire d'un terroriste. Il habite le Plessis-Robinson, dans les Hauts-de-Seine, un département cossu. Il a travaillé 30 ans comme directeur administratif et financier d'entreprise. Et voilà ce qui lui est arrivé le 9 décembre 2008 à monsieur Michel Bouet. Oui, 71 ans retraité.
Alors, racontez-moi un petit peu ce qui s'est passé.
Eh bien, ça s'est passé sur cette place. Je suis rentré un soir, ma femme était allée à Paris, je suis allé chercher l'autobus. C'était le 9 décembre, exactement. Là, je l'ai pris en charge, et puis on est venu sur la place. J'ai cherché une bouteille de Beaujolais avec un ami qui devait passer. Donc, il y avait pas mal de monde à cette heure-là, il devait être à peu près 18h, je pense. Pas facile de stationner, sinon descendre au parking, mais comme j'en avais pour très peu de temps, je me suis dit, je vais garer ma voiture en double file comme les autres. À ce moment-là, la voiture de patrouille de la police municipale est arrivée. Ils sont sortis comme des diables de leur boîte, de leur voiture de patrouille, et ils ont commencé à s'agiter beaucoup. Donc l'agent féminin qui était là m'a apostrophé assez rudement, je dirais, et du genre, circulez, circulez, pas stationner ici. Bon, ça m'a un peu énervé. J'ai dit, écoutez, j'en ai juste pour 2 minutes, j'entre, je sors de la boutique. Elle m'a dit sur ce, eh bien, je vais vous verbaliser. Je lui ai dit, en colère, je lui ai dit, bon, bah, verbalisez-moi. Puis je suis rentré dans la boutique, je suis ressorti. Elle a atteint de remplir son PV. Je suis monté dans la voiture, j'ai mis le moteur en route, j'ai voulu démarrer. À ce moment-là, elle s'est mise à l'avant droite de la voiture, pratiquement collée sur mon aile, et elle voulait m'empêcher de partir. J'ai essayé de démarrer, voyant que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté, j'ai mis le frein à main, je suis sorti. À ce moment-là, ses collègues se sont précipités sur moi, ils m'ont dit, on a vu, vous avez voulu l'écraser. Ça a un peu dégénéré, je me suis énervé. Il n'y a pas eu d'insulte, quand même. Je me suis énervé, genre, vous êtes que la police municipale, et puis c'est moi qui vous paye. Enfin, voyez, un petit peu, la mayonnaise a monté très très vite. Donc, ils m'ont emmené au commissariat, toute sirène hurlante dans la voiture. En cellule, j'ai eu le droit à la garde, à mise en garde à vue, c'est-à-dire à poil, déshabillé, fouiller des affaires, retirer les lunettes, retirer les alliances, enfin tout, vraiment, la garde à vue complète. J'ai pris ça assez mal physiquement parce que, bon, j'ai fait un infarctus au mois de mai dernier. Bon, je me suis senti très, très, très oppressé. J'ai demandé un médecin. Le médecin est arrivé à peu près une heure après, je pense, un médecin du SAMU, qui m'a examiné, qui a trouvé que ma tension était montée très haut, donc il n'a pas voulu prendre de risques. Et finalement, ils m'ont emmené à Marie-Lanne-Longue. Alors, en urgence, avec les perfusions un peu partout, le masque oxygène, bon, bref, le grand jeu. Et vers une heure, que je ne peux pas dire parce que j'ai perdu un peu la notion du temps à ce moment-là, un supérieur est arrivé du commissariat de Clamart me disant, voilà, je suis l'officier de service la nuit, je vous ramène vos affaires, et la garde à vue est suspendue. Voilà. Donc, merci, au revoir, et il est parti avec ses gardiens. Donc, j'ai plus de nouvelles jusqu'il y a une dizaine de jours où j'ai reçu une convocation. J'ai été convoqué au commissariat de Clamart sans autre explication. Donc, tout à fait innocemment, j'ai pris ma voiture, je me suis rendu au commissariat de Clamart gentiment, et là, je me suis présenté à l'officier de police judiciaire. Celui-ci, après m'avoir vu, m'a dit, écoute, je vous remets immédiatement en garde à vue. Ah, je dis, ah bon, pourquoi vous craignez que je m'enfuis? Ça fait un mois et demi que je suis venu, et je ne me suis pas enfui, je ne me suis pas soustrait à la justice ni à l'enquête. Je me remets en garde à vue. Bon. Alors, entre-temps, j'ai eu aussi l'aspect anthropométrique, c'est-à-dire que j'ai eu la photo, les empreintes, le prélèvement biologique, l'ADN, tout. Enfin, j'ai eu... C'est une humiliation assez... Première fois que ça m'arrive, d'ailleurs. Alors, c'est assez humiliant, quand même, hein, parce que vraiment, j'ai eu l'impression d'être quelque part un criminel. J'avais trafiqué de la drogue ou je ne sais quoi. Vraiment, j'ai eu l'impression d'être un criminel. Bien, on m'a remis en cellule. Et l'agent en question s'est pointé, je ne sais pas quelle heure il pouvait être. J'ai perdu la notion du temps. Bref, on a été confronté dans le bureau, elle a persisté dans ses déclarations. Moi, j'ai persisté dans les miennes. Alors, on m'a dit après que je lui avais roulé sur le pied et que ce qui m'était reproché, c'était des violences aggravées. Donc voilà, donc, c'est pour ça que ça les justifiait, ma mise en garde à vue, parce qu'en fait, c'était plus une contravention, c'était un délit, donc passible de la correctionnelle. Bref. Et pour l'instant, ça en est arrêté là. Donc, on m'a remis en cellule et une demi-heure après, ils m'ont relâché. Donc je l'ai mal vécu, et puis psychologiquement je l'ai mal vécu aussi. Je suis fixé au fameux stick là, au pic. Hein. Bon, c'est pas mortel, mais c'est psychologique quelque part. Je me sens dans la peau d'un criminel. Et ça, c'est extrêmement désagréable. C'est ce que j'ai dit à mon avocat. On fera tout pour aller jusqu'au bout. On est en train de voir si on ne peut pas poursuivre pour détention abusive ou garde à vue abusive. Ouais. Parce que là, je ne l'ai pas digéré. Je suis calme, je suis gentil, mais à l'intérieur, je peux vous dire que ça bouffe.
Ils sont comportés comment avec vous?
Ah ben les policiers m'ont défait, ils ont été très... J'ai déclaré dans ma lettre au maire, j'ai déclaré que j'ai eu peur de ce que j'ai vu dans les yeux du flic qui m'a interpellé. Et j'y ai vu arrogance, défiance, envie d'humilier, désir de quelque part de bourrabaisser. Dans la voiture, ce qu'ils m'ont dit, monsieur, on va vous apprendre ce que c'est que le respect. Je dis, tiens, qu'ils vont passer à tabac. En fait, non. Alors j'attends toujours l'explication de ça. Tout le monde les appelle les cow-boys. Et c'est vraiment un terme général, ça fait 15 fois qu'on me le dit, c'est les cow-boys du Plessis. Ce qui m'a gêné le plus et ce qui m'amène à réagir, c'est que lorsque je suis arrivé à l'hôpital le soir, les infirmières se sont un peu inquiétées de voir un monsieur admis en urgence avec deux flics qui le suivaient. Et après, quand j'ai parlé avec elles, elles m'ont dit « Mais qu'est-ce qui vous se passe ?» Alors, je leur ai expliqué normalement ce qui s'était passé. Elles m'ont dit « Mais monsieur, avec ces gens-là, il faut s'écraser. » Ah bon ? Bien. Et trois jours après, quand je suis sorti de l'hôpital, je suis allé voir mon cardiologue. Et qui m'a dit « Oh, monsieur, laissez tomber, il faut s'écraser avec ces gens-là. » Deux fois, trois fois, quatre fois qu'on me dit ça. Ça me fait sauter au plafond. On est quand même encore dans une démocratie. Hein. Donc, je pense que là, il faut réagir.
Et là, ce serait à refaire. Vous vous écraseriez comme on vous l'a conseillé ou...
Bon, j'en sais rien. Peut-être. Peut-être parce que j'y réfléchirai quand même. J'aurais peut-être pas envie d'être dans la même situation. Je l'ai pris comme une agression, en fait. Même s'ils m'ont pas tapé dessus. Je vous dis, ce que je vis dans les yeux du flic, ça m'a vraiment fait peur. Pas peur physiquement sur l'instant, mais peur parce que je me suis dit, ils détiennent un pouvoir que je n'ai pas et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors si on ne apprend pas à être un peu plus circonspect, faut un peu s'inquiéter, quoi. On n'empêchera jamais les gens, quand ils ont un uniforme et une étoile de shérif, de vouloir jouer au shérif. Dès qu'on met un uniforme sous le dos de quelqu'un, il se transforme quelque part. Il représente une parcelle de l'autorité, même toute petite, et je pense que ça monte un peu la tête quelque part.
Vous avez déjà entendu une histoire comme celle qu'on vient d'entendre, probablement. 560 000 Françaises et Français ont été mis à l'ombre l'an passé. La garde à vue, je le rappelle, a augmenté de 54% en France. C'est une exception française qui permet aux flics d'enfermer n'importe qui si bon leur semble. On entendait tout à l'heure notre cher président Nicolas Sarkozy. Il faut rappeler qu'en 2003, après toute une série de bavures, Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, s'était ému et indigné devant une telle situation. Et dans une instruction en date du 11 mars 2003, il constatait que, je cite, « trop souvent encore, les conditions dans lesquelles se déroulent les gardes à vue sont insatisfaisantes. En termes de respect de la dignité des personnes, cette situation n'est pas à l'honneur de notre pays, elle n'est pas admissible dans la patrie des droits de l'homme. » Fin de citation. Sauf... sauf qu'il faut faire du chiffre. Et le 2 février 2007, dans une note remise aux directeurs départementaux, le ministère de l'Intérieur, le même ministre de l'Intérieur que je viens de citer, expliquait que le nouveau taux d'efficacité de l'activité policière serait dorénavant calculé en fonction du nombre de gardes à vue, c'est-à-dire les GAV, G-A-V, et traduit en langage flic, ça veut dire plus on met de clients au chaud, plus les chefs seront contents. Et voilà, c'est tout simplement comme ça que ça se passe. Qu'en pense qu'en pensent les gens de la justice? Qu'en pense quelqu'un comme Serge Portelli, vice-président au tribunal de Paris?
Je suis magistrat, je m'appelle Serge Portelli, je suis vice-président au tribunal de grande instance de Paris et membre du syndicat de la magistrature. Il est évident que ces gardes à vue sont abusives. Là, je regardais justement les chiffres de la garde à vue qui ont été publiés il y a quelques jours. On en est à 577 000 gardes à vue en 2008. Voilà. Donc, c'est même plus une augmentation d'ailleurs, c'est une explosion. Si vous regardez les chiffres depuis 2001, on est passé d'environ 330 000 gardes à vue à 577 000. Je veux dire, quand en 7 ans, on en est presque à doubler le nombre de personnes interpellées en France, alors qu'à la même période, on essaye de nous faire croire que la délinquance a baissé, il y a quelque chose qui cloche. On veut faire du chiffre, sans évidemment qu'il y ait la moindre réflexion sur ce que ça représente. Et vous savez, c'est pas moi qui le dis, les policiers en ont assez de faire des crânes, de faire des bâtons, de faire de la statistique. La moitié des interpellations en France pourrait très bien ne pas avoir lieu. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'à la fin de la garde à vue, l'immense majorité des gens ne part pas en prison. Le gouffre entre le nombre de personnes qui ont été placées en garde à vue l'année dernière, enfin il y a deux ans, 560 000, et le nombre de personnes qui ont ensuite été placées en détention, un peu plus de 60 000, c'est incroyable. À quoi ça sert d'utiliser cette mesure qui est profondément archaïque, qui est moyenâgeuse, qui aboutit parfois à des résultats, mais qui parfois est totalement injustifiée, pour aboutir simplement, je veux dire, à ce chiffre-là de mise en détention. Je veux dire, il y a une disproportion, il y a une discordance, et moi j'allais dire, il y a une incohérence, qui prouve que la majorité des gardes à vue, ou j'allais dire franchement, la moitié des gardes à vue, est en France totalement inutile. Comment voulez-vous que les relations s'améliorent entre la police et la population, quand finalement cette population, c'est-à-dire vous, moi, tout le monde, devient une population de suspects? On sait déjà qu'il y a 25 millions de personnes qui sont fichées au STIC, avec énormément d'erreurs. Il y en a
Le STIC, c'est
le plus gros fichier de police qui recense les personnes qui ont été arrêtées ou qui ont été victimes. Voilà, le résultat est là. On vit dans un état de suspect, où effectivement, on risque quand même de plus en plus de se faire contrôler, on risque de plus en plus... C'est pas qu'on risque, on est déjà tous quasiment dans un fichier, à tort ou à raison. Et c'est cette politique globale, je veux dire, de la peur et de la suspicion qu'on vit tous. Enfin, moi, j'habite près de la mutualité, samedi dernier, c'était transformé quasiment en bunker. Il n'y avait plus personne pour applaudir le gouvernement, hein, comme il y a quelques années. C'était simplement le désert. Vous aviez des policiers partout. Et moi, devant le trottoir vide, je demande à un CRS, est-ce que j'ai le droit de marcher? Et il m'a répondu, oui, mais doucement. Et moi, comme tout le monde, je veux dire, je me sens suspect. Quand je vois un policier, maintenant, quand je vois 15 quarts de CRS dans la rue, ce qui est quand même relativement fréquent, je ne cours plus. Je marche doucement. Voilà.
Je m'appelle Baptiste, je suis lycéen à Léonard de Vinci, en terminale, et je milite pour le droit au logement dans la ville. Les logements sociaux, c'est ça qu'on dénonçait avec le collectif Logement, c'est que c'est des logements sociaux qui coûtent beaucoup trop cher pour des gens qui en auraient réellement besoin. Donc en général, on prend le prétexte de construire des logements sociaux, mais c'est des logements intermédiaires, voire on peut être cadre pour pouvoir se payer ces logements-là. Donc nous, on ne considère pas que c'est des logements sociaux. Hein. On refait la ville en plus belle, on expulse les gens qui sont là depuis longtemps, qui sont pauvres et qui font une mauvaise image à une ville riche comme Levallois, et on les fout dans des endroits où les municipalités peuvent les accepter, comme à Nanterre, à Gennevilliers, etc. D'une certaine manière, on éradique tout ce qui est un petit peu moche et ce qui fait un petit peu pauvre pour mettre du moderne et du riche, quoi.
Et toi, tu es ?
Vincent, et je suis aussi au lycée Léonard de Vinci.
Voilà, Baptiste et Vincent, lycéens à Léonard de Vinci, à Levallois, oui, Balkany, bien sûr, la bonne ville du bon monsieur Balkany. Et qu'est-ce que c'est que ces jeunes-là, à 17 ans, ils n'ont rien d'autre à faire que de militer pour le droit au logement. En tout cas, voici leur histoire.
Et alors donc, qu'est-ce qui s'est passé le 17 novembre ?
En fait, ça fait plus de 2 ans que ce collectif il existe. Le collectif qui s'appelle Mouvement Solidaire pour le Logement. Et le 17, en fait, ça faisait plus de 6 mois que le maire refusait de nous recevoir. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé simplement au conseil municipal pour attirer son attention sur les problèmes de logement, alors qu'on était plutôt calme, hein, sauf qu'on parlait un petit peu, hein, comme dans un cours dans lequel on s'emmerde. Et bah, le maire a demandé qu'on se fasse évacuer, la police est venue, on s'est fait saisir, on s'est fait sortir. On n'a pas été violent, nous, notre but était simplement politique, c'était d'avoir un rendez-vous avec le maire. Et on a été 17 à être emmenés au commissariat, 2 à être placés en garde à vue. Et enfin, on sait toujours pas à l'heure qu'il est, pourquoi c'est tombé sur moi et Vincent, alors qu'on a eu la même attitude que les autres. Non seulement tous les autres ont été relâchés, mais tout le monde s'est pas fait évacuer. Par exemple, les gens les plus âgés du collectif ne sont pas fait évacuer. Moi, j'ai été emmené avec 16 autres personnes dans ce qu'on appelle le dépôt. C'est le lieu où on nous garde pour vérifier notre identité. Et comme ils nous connaissent, bah, non seulement parce qu'on fait des manifs devant la mairie, mais aussi parce qu'on est connu sur le lycée pour bloquer le lycée, et bah, ils m'ont appelé, ils m'ont placé dans une salle. Puis ils m'ont dit que j'étais placé en garde à vue pour violence sur policiers. Alors que même plus tard dans le dossier, il s'est avéré que bah, en fait, y a aucun policier qui dit que j'étais violent avec eux. Moi, si j'ai pris ces 48 heures de garde à vue et cette mise en examen, c'est parce que j'aurais tenté de vriller sur moi-même.
Et donc elle a été reconduite, parce que normalement c'est 24 heures une garde à vue.
On nous a pas donné vraiment de prétexte. Les seules phrases que le substitut du procureur de la République m'a dit, c'est « je reconduis votre garde à vue de 24 heures parce que je vois dans votre dossier des éléments de violence sur des policiers ». Et il a eu cette phrase qui reste très blessante et que je m'explique toujours pas, c'est « vous avez eu de la chance d'être tombé sur des gens qui font bien leur travail, la prochaine fois ça pourrait être un coup de matraque ou une balle dans la tête ». Le principe d'une garde à vue, c'est la déstabilisation. Donc nous, on ne savait pas quelle heure il était, on ne savait pas si c'était le jour, la nuit. On était dans une cellule où tout est jaune, il y a un néon au-dessus de notre tête, on ne peut pas dormir. Moi, on m'avait enlevé mon pull parce que, soi-disant, il y avait une lanière, donc j'aurais pu me suicider avec. Donc c'était 48 heures dans le froid, sans dormir, sans savoir quelle heure il était, complètement perdu, juste à s'attacher à ses convictions, à savoir qu'on n'avait rien fait, mais c'est... la déstabilisation totale, hein. La lumière jaune qui tape sur la tête, le bruit des clés dans la serrure, tout ça c'est des choses qui sont gravées dans nos mémoires et qui sont complètement injustes.
Je suis Catherine Le Guernec, je suis conseillère municipale socialiste, donc d'opposition à Levallois-Perret. Et bien sûr, j'étais là lors de ce fameux conseil municipal où les jeunes n'ont absolument pas perturbé, ils n'ont absolument pas ni vociféré, il n'y a pas eu de manifestation, si vous voulez. Et ils faisaient infiniment moins de bruit qu'en ont jamais fait ce que nous on appelle la claque Balkany, qui eux vocifèrent, sifflent, applaudissent, eulent l'opposition dès qu'elle ouvre la bouche. Et le maire n'a jamais fait évacuer le conseil municipal, hein. Vous savez très bien que le maire a un ami et des amis très haut placés. Donc lui aussi, il veut des statistiques. Il en a besoin. Des arrestations pour montrer et puis aussi justifier les 83 caméras qu'il y a dans notre ville.
C'est une ville ultra sécuritaire, Levallois, qui joue avec la peur des gens, qui nous fait passer pour des voyous, pour des délinquants, alors que nous sommes des militants politiques. Il y a une vraie criminalisation des actions militantes en France et en particulier dans cette ville. En vérité, c'est ça qu'on nous reproche et il n'y a pas d'argument juridique pour nous reprocher ça. Donc on cherche de la petite bête qui n'existe pas en vérité.
Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial. Il ne doit se départir de sa dignité en aucune circonstance. Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire. Il a le respect absolu des personnes, quelle que soit leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leur conviction politique, religieuse ou philosophique.
Auteur d'un projet qui fait peur, à Frédéric la gâchette, je suis l'ennemi des corrupteurs, un fait que personne n'achète, qui dit tout haut ce qui se pense en cachette. Détracté dans la machine de dissuasion, loin de ce qu'on s'imagine, sur mes révélations, j'écris mes cris, c'est ce qui m'aide, me libère de certains que je soupçonne d'être membre de gangs de skinhead. Je fais l'objet d'une rançon chez les fabricants des métiers, parce que dans mes chansons, je dénonce les dérives de mon métier. Qui vit dans l'attente d'une balle dans la tempe, brigadier j'assume d'avoir troqué mon compas contre une plume. Des déboires j'écris des vers, de la boue pouvoir à la boue consommation. Je reste un bricard, loin des vapeurs de Ricard. Car à quoi bon parler si le changement vient de l'action.
Police corrompue, au
sait tous comment ça se passe. Faut du quota, faut du chiffre, du basané, des gardards. Répression officielle qui matraque sur la misère. Des gosses en rétention, ça empêche pas de dormir le commissaire. Bah, ça manie le flashball pour semer la terreur. 2007, y'a des fachos au ministère de l'intérieur. Un des vôtres est avec nous pour cracher tous vos travers. C'est leur choisir son camp, l'ami, on nous a déclaré la guerre.
Il y a de très très bons fonctionnaires, ça je tiens à le souligner, des fonctionnaires avec qui j'ai travaillé, franchement c'est des fonctionnaires responsables et respectables, vraiment très 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 humains. Et eux, j'ai pris plaisir à travailler avec eux, et s'il n'y avait que des policiers comme ça, bah, franchement je serais resté dans la police en toute sincérité. Mais il y a beaucoup de personnes qui, dès qu'ils ont un uniforme, bah, on ne les reconnaît plus. Hein. Moi, j'avais des collègues que je côtoyais en civil, et quand ils avaient un uniforme, c'était pas les mêmes. Hein.
Ah bah justement, ça tombe bien. Ça tombe bien. En voilà un. En voilà un. Flic. Nicolas Comte, du secrétaire général du syndicat de police SGPFO, syndicat général de la police, force ouvrière, qui, évidemment, sur ses gardes à vue, a un avis.
Alors moi, je suis Nicolas Comte, je suis secrétaire général du SGPFO, syndicat général de la police, force ouvrière. Il y a eu une très nette augmentation du nombre de gardes à vue ces dernières années, tout ça étant lié avec la politique d'objectifs de résultats chiffrés qui a été mis en place à l'arrivée de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Et si l'augmentation du nombre de gardes à vue n'est pas choquant en soi, parce que ça veut dire à la limite que les services de police travaillent plus et travaillent mieux, ce qui quelquefois peut poser problème, c'est éventuellement qu'on soit non plus sur la qualité du travail qu'on va fournir, mais uniquement sur la quantité, et on travaille sur de l'humain, et le travail de policier doit être toujours un travail de qualité et un travail fait avec discernement.
Mais donc, l'augmentation du nombre de placements en garde à vue, ça veut dire que c'est des résultats positifs? Ou est-ce que ça signifie vraiment qu'on a arrêté plus de délinquants?
Oui, l'augmentation du nombre de gardes à vue signifie qu'on a interpellé plus de délinquants. Ce qu'il faut voir derrière, c'est de voir si l'augmentation du nombre de gardes à vue correspond à une augmentation du nombre de condamnations par la justice. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on ne fixe des objectifs qu'en termes de chiffres, on a finalement un travail qui ne rime plus à rien. Le chiffre juste absolu, comme ça, brut, ne veut strictement rien dire. Si vous faites 5 interpellations suivies de 5 gardes à vue, parce qu'on vous a fixé un objectif de 5, par exemple, dans la journée, eh bien on va mettre sur un pied d'égalité 5 interpellations et 5 gardes à vue pour 5 lycéens qui fumeraient un joint. Ça correspondra à la même chose que des interpellations pour des braquages. Et à la limite, si on va au bout du raisonnement, parce que ça c'est le raisonnement par l'absurde, quand on fait cette religion du chiffre, 5 interpellations pour 5 fumeurs de joint, c'est mieux que 2 interpellations pour braquage. Parce que on ne se focalise que sur le résultat chiffré, et non pas sur la qualité du travail effectué. Donc c'est ce que nous dénonçons dans la logique du chiffre. La police est au service de la population et pas uniquement un outil répressif. Donc il faut véritablement qu'il y ait un bon équilibre qui soit fait entre les choses, de manière à ce que le policier ne soit pas vu comme un ennemi.
L'activité policière a parfois pour corollaire des abus, des excès, des manquements à la déontologie.
France 2, 12 avril 2006.
La Commission nationale de déontologie de la sécurité dresse cette année un constat inquiétant.
Il y a une circulaire très intéressante du ministère de l'Intérieur du 11 mars 2003.
Pierre Truche.
Qui dit qu'il faut respecter la dignité des personnes en garde à vue, et notamment ne pas les menotter si c'est pas nécessaire, et surtout ne pas les fouiller à corps, c'est-à-dire étant mise nue. Or, nous constatons dans nombre de dossiers que cette circulaire n'est pas appliquée.
Enfin, c'est pas fini. Je pense que c'est fini. Mais sauf s'ils s'y font appel, ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient, mais...
Donc ça s'est passé quand, déjà, cette histoire?
C'est passé au mois de juin. Tout simplement, je prenais mon train, comme d'habitude, en gare d'Orsay. Donc je monte sur le quai avec un billet que je composte. Je me rappelle très bien, parce que je l'ai mis dans une machine qui me l'a refusé, je l'ai mis dans une deuxième machine, il est rentré, il est ressorti, bon, je n'ai pas vérifié, je l'ai mis dans ma poche. Et j'arrive sur le quai, il y avait des contrôleurs. Je les regarde et je monte avec eux dans le train. Ils me demandent mon billet, le contrôleur qui me contrôle me dit « Monsieur, vous n'avez pas validé votre titre de transport ». Alors je regarde étonné, je fouille dans mes poches, c'était le seul billet que j'avais, et je lui dis « Si, je l'ai validé, j'en suis persuadé, je lui raconte ma petite histoire avec les machines ». En lui disant que vraisemblablement la machine fonctionnait pas bien. Et il me dit, c'est pas possible. Très bien, donnez-moi vos papiers, on va vous verbaliser. Alors je lui explique que non, moi j'ai payé mon billet. Il est hors de question que je lui donne mes papiers, etc. Donc ça dure pendant tout le trajet. Et puis, arrivé à Luxembourg, il me bloque sur le quai. Et arrive la police, et puis je leur dis, ah, vous arrivez, c'est très bien, je vais pouvoir vous expliquer l'histoire. Et avant même que j'explique mon histoire, la police me demande mes papiers. Je leur donne immédiatement. Ils contrôlent mes papiers, ils me fouillent, ils me demandent de me retourner contre le mur, de mettre les mains à plat contre le mur de Luxembourg, et ils me font une fouille au corps très serrée. Et puis après, ils me disent, bah, allez-y maintenant, racontez votre histoire. Et à la suite de ça, bah, ils sont mis à me verbaliser, alors en stéréo. J'avais donc la police qui me mettait un PV, et puis la RATP qui me mettait un autre PV en même temps. Et là, j'ai commencé à dire, mais arrêtez, vous n'allez pas me verbaliser, alors que j'étais dans le train avec un ticket, qu'est-ce que ça veut dire? Et à ce moment-là, ils ont dit, bon, bah, ça suffit maintenant. Ils m'ont fait une clé de bras, ils m'ont mis face contre terre, un pied sur la tête. En tirant sur le bras, d'ailleurs, j'ai eu mal au bras pendant un bon mois derrière. Monote, bien évidemment, bien serré, à bloc. Après, ils m'ont emmené jusqu'à un local à côté des guichets de Luxembourg. Franchement, c'était vraiment très brut. Alors, je dis à un policier, mais vous êtes obligé d'être aussi violent. Et il me répond, de toute façon, j'en ai rien à foutre de ta gueule, textuellement. Donc, ils me remettent face contre terre, avec un pied sur la tête. Et ils m'ont transféré pour la nuit au commissariat de gare du Nord. Alors j'ai eu droit au camion avec le coude dans les côtes de la part d'un policier à qui j'ai encore dit, mais vous êtes obligé de me mettre le coude dans les côtes, je pouvais pas m'asseoir dans le camion. Et après j'ai été mis en garde à vue. Alors c'était ma première garde à vue, hein. J'avais jamais eu de problème avec la police, ni avec la RATP d'ailleurs. Si j'ai eu un PV ou deux dans ma vie, c'est bien le maximum et ça fait bien longtemps. Je me suis retrouvé dans une cellule, ça doit faire 12 mètres carrés, on était trois dedans, ça hurle, c'est le truc sans fenêtre et bariolé de partout. Pour aller aux toilettes, faut taper comme un sourd et les flics passent au fond dans le couloir et disent « Ouais, ouais, c'est ça, on arrive !» Et puis c'est très sale, les toilettes, c'est infâme. En plus, interdit de fermer la porte, bien évidemment, et la cellule est dans un état lamentable. Il y a des traces, on se demande si c'est pas des girs et pas d'excréments, mais on se demande, je pense que c'est de la nourriture que les gars étalent sur les murs, je sais pas, mais c'était vraiment très très sale. Ils m'ont mis à poil, ils m'ont fouillé entièrement, ils m'ont fait une prise d'ADN, c'est un coton dans la bouche, c'est photo déjà pour être fiché, alors photo, profil, face, etc. Et après, coton avec prise d'ADN des muqueuses, et prise complète de toutes les empreintes des doigts, etc. quoi. Enfin, vraiment le truc complètement démesuré. C'est une attitude humiliante jusqu'au bout. Je crois que de toute façon, c'est fait pour ça. Pour mettre les gens dans une situation d'humiliation et d'énervement et de rabaisser les gens au maximum, quoi. C'est fait réellement de cette façon. Donc j'ai passé une nuit épouvantable. Je crois que j'ai vu le policier le plus conciliant, le plus compréhensif, je l'ai vu à la toute fin de la garde à vue, quand il a, donc 24 heures après. Quand un gars est venu me chercher, il m'a dit « Oh, bah, c'est pas bien grave ce qui vous arrive. » Oui, je pense bien, ça faisait 24 heures que j'étais en garde à vue pour un défaut de titre de transport que j'avais en plus et que j'avais payé. Et lui était un peu plus conciliant, il m'a dit « Vous allez avoir un juge pour une conciliation. »
Des histoires comme celle-là, des milliers, il y en a des milliers de témoignages comme ceux que vous entendez aujourd'hui. Alors vous, ah ben voilà, c'est Sarkozy. Oui, bien sûr, avec le président, notre président. Le nombre de gardes à vue a augmenté. Mais n'oubliez pas, la sécurité est la première des libertés. Ce leitmotiv de Nicolas Sarkozy a été repris de son prédécesseur, Jacques Chirac, qui lui-même l'avait emprunté à son prédécesseur, un certain Lionel Jospin. Il avait prononcé cette phrase, « La sécurité est la première des libertés », en octobre 1997. Et ça, c'était une rupture, parce que la gauche avait
pour tradition, eh bien, l'État social, et puis la droite, plutôt l'État pénal, je caricature, mais enfin la sécurité, c'était évidemment un thème traditionnel de la droite. La gauche, pour des raisons qui lui appartiennent, enfin la gauche libérale, pour des raisons qui lui appartiennent, a emprunté ce thème-là, si bien que c'est une succession. Mais on l'a vu, on a essayé de l'expliquer tout à l'heure, ça n'est pas seulement une question de gouvernement ni des choix, c'est aussi un mouvement plus profond de nos sociétés et des grands courants idéologiques qui la dominent et inconsciemment la conduisent. Voilà l'histoire, la fin de l'histoire de Laurent.
Donc à l'issue de ça, j'ai eu donc une audience qui a eu lieu 2-3 mois après, en présence des 2 policiers sur les 3 qui étaient là, un contrôleur qui avait porté plainte parce que je l'avais soi-disant blessé, je ne sais pas comment, apparemment il a voulu me tenir les pieds quand j'étais sur le sol et je lui aurais blessé la main. Il y a un des policiers qui a déclaré que je lui avais cassé 2 téléphones portables, donc son téléphone personnel et son téléphone de service, 2 d'un coup, je ne sais pas comment j'ai fait non plus. Je précise aussi qu'à l'issue de la garde à vue, il m'avait mis des PV dans mon sac, mais sans me le dire. Il m'avait mis 2 PV de la RATP pour défaut de titre de transport, 1 pour trouble de la tranquillité des voyageurs, et 1 autre de la police pour trouble de l'ordre public. Bon, ça commençait à chiffrer, hein. Les flics ont demandé chacun des dommages et intérêts, 1 pour son portable qui montait à 500 €, il me semble, et le deuxième parce que je l'avais poussé, et il demandait 200 € de dommages et intérêts. Bon, là, la juge a dit, écoutez, on va peut-être pas abuser quand même, et elle a arrêté la situation en me demandant de m'excuser. Donc je devais faire 3 lettres d'excuses et je devais faire une proposition au portable. Quand je suis sorti, c'est ça qui est infernal, c'est que quand je suis sorti de cette audience, apparemment, c'était un non-lieu. La possibilité, c'était que les 2 policiers voulaient faire appel, parce qu'ils voulaient leur dommage et intérêt. Pour l'instant, j'ai pas de nouveau. Par contre, ce qui se passe, c'est que les PV courent toujours, et majorés, qui plus est, donc je me retrouve avec du 500 € de PV à payer. À la fin, j'ai dit, bon, bah, j'ai compris, ils sont assermentés, quoi. Ils sont assermentés, et pas moi, donc j'ai rien à dire. Ça fait peur, ça fait très très peur. Bah, d'être dans un espèce d'engrenage où de toute façon, il y a effectivement une procédure, il y a des techniques d'interrogatoire, et puis on est en face d'une espèce de machine, et puis on peut rien y faire. On devrait se sentir bien protégé, mais là, j'avais peur, moi. J'avais carrément peur de cette disproportion.
On continue demain sur ce thème garde à vue à Balabu. Évidemment, je suppose que ça a remué pas mal dans les mémoires et dans l'envie de témoigner. Vous avez le téléphone de là-bas si j'y suis. La boîte vocale de là-bas si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. C'était un reportage de Charlotte Perry, Serge Portelli, Nicolas Comte de la SGPFO. Merci. Merci aussi à Pascal Le Pascariello. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires qui sont mis en ligne, ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org, même jeu. À la technique aujourd'hui, Loïc Frapsos, c'est Guillaume Lacroux, c'est Coyen Guyenne et Raphaël Moutarde qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry. Charlotte Perry fait tout. Et c'est Agnès Lebot qui attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, dont je répète le numéro, le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Et puis il y a également un mail, daniel.mermet@radiofrance.com, daniel.mermet@radiofrance.com.